La Data Room. Vous connaissez le principe. Tous les jours, nos invités viennent en plateau avec un chiffre qu'ils ont envie de commenter. Votre chiffre, Alexandre Baradez, votre Data Room à vous, 17. C'est le nombre d'États américains qui ont lancé une procédure antitrust contre Apple.
Oui. Oui, c'est bien ça. C'est dans le département de la justice américain et 17 États qui ont lancé une procédure antitrust. Le responsable antitrust du département de la justice explique que c'est une procédure qui était très méthodique, une enquête très méthodique, qui repose sur plusieurs millions de documents. Et interrogé ce responsable antitrust, on lui a demandé, mais est-ce qu'un démantèlement d'Apple, alors dans le scénario catastrophe évidemment, est-ce qu'un démantèlement serait possible? Réponse classique, tout est possible. Quand il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions par rapport à la position d'Apple. Donc c'est vrai qu'on en parle à l'instant, Apple, c'est enfin une mauvaise séquence pour eux. Seule petite élément un peu positif, c'est qu'en Chine, apparemment, où ils veulent refaire un peu de leur santé, il y aurait un accord, peut-être passé avec Baidu, pour justement développer de l'intelligence artificielle. Donc c'est peut-être un petit quelque chose, mais sur le front antitrust, juste pour compléter, on parle à l'instant, effectivement, de la taille de ces méga-caps. Effectivement, c'est un monde par rapport aux small et aux mid. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train de se produire, là, l'enquête antitrust, parce que si on regarde d'un point de vue historique, on n'a jamais eu aussi peu d'enquêtes antitrust aux États-Unis que depuis 1989. Et moins il y a d'enquêtes antitrust aux États-Unis, plus les géants ont pu prospérer aussi. Peut-être qu'il y a un lien entre la faiblesse du nombre d'enquêtes antitrust, alors aussi bien sur les questions de fusion-acquisition que sur les questions de monopole ou de restriction de vente, mais en nombre d'enquêtes antitrust ouvertes aux États-Unis, on est au niveau le plus bas depuis 1989. Donc est-ce qu'on n'assiste pas là à un début peut-être aussi pour rentrer un peu d'argent dans les caisses? Il y a la question de déficit qui peuvent aussi un petit peu jouer, mais il me semble que c'est pas quelque chose d'anodin qu'on est en train de voir sur Apple. Il y a un peu de bruit autour de ça et c'est pas que du bruit. Et est-ce que ça ne pourrait pas s'étendre un petit peu aussi, peut-être en période électorale ou après, à d'autres stars de la côte aux États-Unis? Ça me paraît pas impossible.
Vous dites période électorale, pour ceux qui étaient avec nous un petit peu plus tôt dans l'émission, Jean-Edouin nous disait tout à l'heure, c'est pas un hasard si à l'approche des élections aux États-Unis on a toute cette agitation et toutes ces enquêtes antitrust.
Oui, en fait, il faut se souvenir du contexte en parallèle, celui de TikTok, la société chinoise qui est devenue le premier réseau social aux États-Unis parmi les jeunes et parmi les électeurs de droite. Les électeurs de Trump sont tous sur TikTok. Et il a changé d'avis sur le besoin de freiner cette société chinoise tellement symbolique. Il faut se souvenir qu'il était quand même le premier à attaquer la Chine et qu'il était arrivé.
Je ne veux pas faire de mauvais esprit, c'est pas la première fois que Donald Trump change d'avis sur un sujet.
Probablement, mais c'est aussi un sujet politique. Tous ces sujets sont hyper politiques. Ouais. Les GAFAM sont des projections de la puissance américaine à travers le monde, et je pense que cet antitrust sur Apple, il a été nourri de... Il y avait Epic Games, qui était donc une société de jeux vidéo, qui s'est plaint parce qu'ils étaient taxés. Ils prennent 30% sur le App Store pour tous les jeux qui sont vendus. Il y a clairement un sujet. L'antitrust qui a été lancé contre Amazon il y a 2 ans était un échec cuisant. Donc là, je pense qu'ils ont beaucoup mieux préparé le dossier et ils ont vraiment envie d'aboutir. Mais je pense quand même qu'il faut... Pour moi, ça reste hyper politique et c'est à mettre en parallèle avec ce qui se passe sur TikTok. Parce que c'est important pour Biden de montrer qu'il n'est neutre face aux GAFAM, alors qu'elles ont tendance à promouvoir et être favorable aux électeurs démocrates.
Ouais, on est d'accord. Voilà. Votre data room, à vous Jean-Edouin, 7,5, c'est un pourcentage. C'est la part de la consommation électrique mondiale dédiée aux data centers et à l'intelligence artificielle en 2030, c'est une prévision.
C'est une prévision. Aujourd'hui, les centres de données représentent à peu près 2% de la consommation électrique c'est aux États-Unis. C'est pas un chiffre mondial. Et la prévision pour 2030, c'est 7,5%. C'est une accélération très importante de la consommation d'électricité. Alors, vous vous souvenez, on a eu les cryptos, on décriait qu'elles consommaient trop d'électricité. On a eu la promotion des voitures électriques, on s'est inquiété de savoir si on allait pouvoir les recharger à bon prix. Maintenant, ce sont les centres de données. Je pense que la différence qu'il y a ici, c'est qu'on est sûr que les CAPEX qui vont être déployés sur les centres de données de l'IA vont être financés, parce qu'ils sont financés par des poches très profondes. C'est pas subventionné comme les voitures électriques. Il n'y a pas de dette fiscale qui est derrière. Et c'est pas spéculatif comme la crypto. Donc en fait, on a affaire à quelque chose qui est probablement assez proche de réalisation. Et c'est vrai qu'il y a juste 2 semaines, Amazon a mis la main sur une centrale électrique entière en Pennsylvanie.
Un réacteur.
Un réacteur. Voilà. Ils ont un centre de données, en fait, un énorme hangar est vide, juste à côté. Ils l'ont acheté. Ils ont réservé 10 ans de production électrique pour ce data center et deux options supplémentaires pour acheter la totalité. Donc, on voit bien que l'IA, c'est un nouveau modèle économique. C'est de l'informatique vendue comme de l'énergie. C'est vendu comme de l'essence à la pompe. Il faut de l'énergie pour l'alimenter. C'est très énergivore et il faut absolument montrer au monde que c'est décarboné. Donc voilà, ce chiffre de 7,5, c'est un peu pour capturer l'importance de l'énergie, pour rappeler que l'IA, c'est géopolitique, que c'est énergivore et que ça va entraîner beaucoup de conséquences, on va dire, économiques, au-delà de l'impact social.
Alexandre, un commentaire. On va décarboner l'IA, c'est peut-être plus intelligent de s'atteler à ce chantier que de limiter la consommation de data à 3 gigas par semaine, c'était ça, ou par mois, la proposition de Najat Vallaud-Belkacem voulait limiter la consommation.
Bon, sortant les thèmes, parce que vous êtes bien plus spécialiste que moi, mais c'est par contre, ça fait penser à un thème qui a été largement sous-joué en bourse et qui peut être un très bon thème, je pense, tous les mois qui viennent.
La décarbonation de l'IA.
Le thème de tout ce qui est énergie renouvelable, vous regardez là, la poche, elle avait gonflé en bourse post-Covid comme tout le reste.
Ça
s'est effondré. Et aujourd'hui, on est sur des valeurs vraiment intéressantes. C'est un des rares segments qui n'a pas rebondi comme le reste. Et je pense qu'il y a de très bons points d'entrée et vraiment une bonne diversification. Et comme vous le disiez, il y a les États derrière, il y a les budgets. C'est politique, en fait. Donc, c'est un secteur qui ne peut pas tomber et qui ne peut qu'accélérer. Donc, les points d'entrée me semblent très intéressants actuellement.
Et si le sujet vous intéresse, sachez qu'il a été évoqué par Jean-Edouin Réa, Quadrille Capital, qui était avec nous dans l'émission hier. On en a parlé vraiment en détail de cette décarbonation et de ce qu'on pouvait jouer en bourse comme valeur pour jouer cette thématique. Il y a effectivement les processeurs, on en parlait en amont, donc Nvidia qui présente des puces moins énergivores, mais il y a tous les climatiseurs, puisque, si j'ai bien retenu les chiffres, la moitié de l'énergie dépensée sert à refroidir.
40%, ouais.
40%,
ouais.
On n'est pas loin. Voilà.
À refroidir les data centers, mais il faut aussi refroidir les puces elles-mêmes.
Dans l'eau.
On crée des serveurs qui sont immergés, en fait. Voilà. Des serveurs dans l'eau. C'est des aquariums.
Ouais. Non, mais c'est. L'émission d'hier est disponible en replay. Vous pouvez toujours aller sur le site de BFM Bourse et revisionner. C'était avec Jean-Edouin Réa, gérant Quadrille Capital hier. Merci beaucoup, Jean-Edouin, d'être revenu nous faire un coucou aujourd'hui. Merci, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.